Voici l'entretien avec Mgr Marc Caillet, enregistré le mardi 12 juin 2012.
Mgr Marc Caillet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre entretien du mois de juin. Un entretien qui est diffusé simultanément sur Radio La Pourdie en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Et nous sommes bien sûr également avec vous, Alexandre Aguerre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Mgr Caillet, nous sommes dans l'entre-deux-tours des élections législatives au moment où cette émission est enregistrée. Elle sera diffusée après les résultats du second tour. Alors, en amont de l'élection présidentielle, vous aviez fait part de points non négociables concernant notamment le début et la fin de vie, la famille. Ces points ne sont pas tout à fait tous dans le programme du président élu. Quelles actions finalement peuvent mener les chrétiens pour peser sur les choix qui vont être faits concernant ces différents points?
C'est évident que quel que soit le résultat des élections présidentielles ou des élections législatives en cours, l'Église conserve sa liberté de parole et surtout sa vigilance sur ces points non négociables, sur lesquels elle continue d'attirer l'attention des décideurs politiques et des élus qui nous représenteront à l'Assemblée nationale. Bien entendu qu'il reste toujours d'actualité et que jamais l'on ne capitule, même si, étant donné les effets d'annonce à travers les programmes qui ont été publiés avant les élections présidentielles, on peut être en droit d'être un peu inquiet, en particulier par rapport à l'évolution de la législation concernant le début de la vie, la fin de la vie, avec un projet de loi sur l'euthanasie qui semble se profiler à l'horizon, et également sur ces questions de société concernant par exemple le mariage, le dit mariage des homosexuels, où évidemment l'Église a une parole à donner pour rappeler ce qui est inscrit dans la nature de l'homme et ce qui est aussi productif pour la société et sa cohésion et son bien commun.
Finalement, ce genre de questions seront discutées au Parlement par des projets de loi, donc les législatives sont très importantes en ce sens.
Les législatives sont toujours déterminantes, même si on sait bien que dans l'histoire de la Ve République, comme on nous le dit régulièrement, il y a toujours un effet présidentiel qui se répercute sur les élections législatives, même si on voit bien que les rapports de force demeure assez étroit, assez équilibré, et que rien n'est jamais complètement joué par ces élections législatives, où il y aura toujours possibilité, j'imagine, de débats démocratiques à l'Assemblée, et c'est là où les citoyens, et les catholiques sont des citoyens comme les autres, d'ailleurs on a vu qu'il y avait une certaine évolution dans le vote des catholiques, d'après les enquêtes d'opinion, au cours de ces élections présidentielles et de ces élections législatives, et je pense que leur parole peut toujours être entendue, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes.
Mgr Caillet, il n'y a pas une semaine sans que les médias fassent écho de ce qui se passe au Vatican, de ces affaires, entre guillemets. Comment vous vivez ces histoires du Vatican qui sont relatées dans la presse? Quel est votre point de vue sur ce qui se passe à Rome?
Mais d'abord, je pense au Saint-Père, car c'est encore lui qui est sur la sellette, même si tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Mais je pense à sa tristesse et son affliction qu'un de ses proches collaborateurs, s'il en est, puisqu'il s'agissait de son majordome, donc homme de confiance plus exactement, soit arrêté, soupçonné de s'être saisi de papiers très confidentiels est évidemment une cause de tristesse pour le Saint-Père. Ceci dit, je crois qu'il faut relativiser. Les médias, comme d'habitude, font caisse de résonance et peut-être donnent une résonance excessive à un événement qui reste, pour ma part, très anecdotique. Le Saint-Père conserve toute sa paix, sa sérénité. J'ai pu le constater en participant, comme nous y reviendrons sans doute, au Rassemblement mondial des familles à Milan. Et le pape sait que c'est l'Église qui conduit l'Église, que c'est le Seigneur qui conduit l'Église, que l'Église est composée d'hommes. La curie romaine n'échappe pas, comme toute organisation où les hommes sont nombreux, avec des relations très complexes, à certaines difficultés que l'on connaît dans toute société humaine. Je rappellerai de manière un peu prosaïque que Jésus lui-même a été trahi par l'un des siens. En l'occurrence, comme vous le savez, ces papiers confidentiels ou ces lettres confidentielles adressées au Saint-Père, qui ont été même publiées dans un livre, n'apportent pas de grandes révélations sur ce qui se passe au Vatican, se contentent de mettre le doigt sur certaines intrigues, certaines compétitions entre tel ou tel personnage de la curie, ce qui n'est entre nous pas un scoop, qui a toujours existé, et ce que j'admire, moi, c'est la sérénité, la paix que le Saint-Père conserve, dont la mission et la responsabilité est avant tout spirituelle, et elle continue d'être reconnue, et elle continue d'avoir des effets extrêmement positifs sur le peuple chrétien.
Il y a toujours eu une sorte de fantasme par rapport au Vatican, il y aurait des secrets, des complots. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il y ait un peu plus de transparence pour justement mettre à bas tous ces fantasmes qui sont parfois infondés?
Je crois, et comme vous le savez, le Saint-Père Benoît XVI a déjà fait beaucoup depuis qu'il est arrivé au siège de Pierre, pour améliorer cette transparence. On l'a vu en particulier à travers la gestion hors du commun, pour un responsable de cette envergure, sur les questions de la pédophilie, des prêtres. Jean-Paul II lui-même ne s'était pas attelé à cette question, et je ne connais aucune institution humaine, aucun chef de ministère ou autre, dans la société civile, qui se soit attelé avec autant de détermination et autant de transparence à un tel scandale qui éclabousse bien plus que l'Église et beaucoup d'autres institutions humaines.
Pour vous, il n'y a pas une guerre de succession qui se prépare ou qui a lieu vis-à-vis du successeur de Benoît XVI?
Non, ça je crois que le Saint-Père l'a lui-même dit, son entourage proche est tout à fait serein, il n'y a pas de guerre de succession, il n'y a jamais de guerre de succession dans l'Église, même si il y a des courants d'opinion, qu'il y a entre les cardinaux certainement des courants qui préparent toujours l'avenir, mais c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier et ce sera vrai toujours.
Alors plus près de nous, au niveau national, vous êtes membre de la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale depuis quelques mois. Et donc on voit sur votre agenda régulièrement que vous allez à Paris, à la conférence des évêques de France, pour un groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors ce sont deux choses. Je fais partie en effet d'une commission, qui est la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, comme vous venez de le rappeler, qui se réunit régulièrement pour apporter un certain accompagnement et une certaine vigilance des évêques sur tout ce qui concerne, d'une part, la formation sacerdotale, la vie des prêtres, et d'autre part, les laïcs en mission ecclésiale. Et puis, il y a un groupe de travail qui, lui, est beaucoup plus temporaire, qui est établi sur un thème particulier, sur lequel la conférence des évêques de France est appelée à plancher pendant un an ou deux, afin de nous aider dans notre ministère pastoral quotidien. Le groupe de travail auquel je participe est présidé par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire à Paris, et qui a pour thème la présence des catholiques dans la société contemporaine. Alors, c'est vrai que ça me donne l'occasion de travailler avec d'autres évêques de régions, de diocèses extrêmement différents du mien, et ça nous permet de réfléchir ensemble à la manière dont nous allons faire travailler l'ensemble des évêques de France au cours des prochaines assemblées plénières sur ce thème. Et la dernière fois que nous sommes rencontrés à Paris, le mois dernier, nous avons auditionné un certain nombre de personnes qui peuvent être à même, par leur situation dans l'Église ou dans la société, de nous aider à débrouiller ce thème de la présence des catholiques dans la société contemporaine. Nous avons auditionné trois personnes, et en particulier Jean-Pierre Denis, qui est le rédacteur en chef de La Vie, et qui a un regard assez ample sur la société contemporaine et sur la présence de l'Église dans la société contemporaine, et aussi Raphaël Cornu-Thénard, qui est l'initiateur de ce forum d'évangélisation qui a lieu maintenant tous les ans dans plusieurs villes de France, y compris chez nous à Biarritz, qui s'appelle Annuncio.
Monseigneur Hayet, vous étiez avec une délégation diocésaine à Milan pour le Rassemblement mondial des familles. C'était du 1er au 3 juin, avec la messe de clôture présidée par le pape Benoît XVI. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu, vous, à Milan, avec la délégation diocésaine?
Alors c'est sûr que ce rassemblement mondial des familles, qui a lieu tous les 3 ans, à l'initiative du Saint-Père, qui est précédé par un congrès théologico-pastoral, a été pour nous précédé dans notre diocèse par la journée de la Pentecôte, famille en fête, à Anglette, et qui a été comme pour nous une espèce de propédeutique hein, à ce grand rassemblement auquel j'ai participé avec l'abbé Lionel Landard, vicaire général, plus chargé de la pastorale familiale dans le diocèse, et puis plusieurs couples qui sont très engagés dans la pastorale familiale du diocèse. Congrès théologico-pastoral qui a rassemblé plus de 7000 congressistes, composés essentiellement d'évêques, de prêtres, de pastorales familiales des diocèses du monde entier, de haute tenue, avec des interventions extrêmement pertinentes sur un thème très important et très intéressant qui était la famille, le travail et la fête. Et d'essayer de voir comment ces trois réalités s'articulent pour le bien et le bonheur de l'homme. Et puis ça a été conclu par une rencontre avec le Saint-Père, d'abord une nuit des témoins, devant une veillée des témoins, devant plusieurs centaines de milliers de personnes. Le pape, comme un bon père de famille, a répondu aux questions extrêmement ciblées de telle ou telle famille, de telle ou telle partie du monde, sur la question de s'engager pour toujours dans le mariage, sur la question de la souffrance des divorcés remariés, sur la question des difficultés économiques qu'une famille peut connaître en Grèce, sur la question l'articulation entre les obligations familiales et le repos du dimanche pour une famille américaine de 6 enfants. Et le pape, sans papier, avec beaucoup de spontanéité, répondait toujours avec beaucoup de délicatesse, de simplicité, et en allant toujours à l'essentiel, en suscitant, suggérant, même souvent des solutions extrêmement concrètes, renvoyant d'ailleurs aux paroisses, aux pastorales familiales, aux curés, aux familles elles-mêmes, pour trouver elles-mêmes, dans la prière bien sûr, des solutions à tous ces grands problèmes de société auxquels les familles sont aujourd'hui confrontées.
Vous êtes reparti de Milan, donc de ce grand rassemblement mondial, avec des idées, un nouvel élan pour le diocèse.
Certainement un nouvel élan, parce que il faut aussi signaler cette grand-messe conclusive devant plus d'un million de personnes. Oui, nous étions 300 évêques, je crois, du monde entier, beaucoup de prêtres. Évidemment, c'était Milan qui est une ville prestigieuse, hein, dont la culture est prestigieuse. C'est la ville de Saint-Ambroise, et c'est très important parce que c'est là que a été signé l'édit de Milan par Constantin en 315, qui a mis un terme aux persécutions et qui a été le vrai lancement officiel de l'Église en Europe. Et cette messe était très belle, très recueillie, et pour moi j'en garde évidemment ce témoignage, cette visibilité donnée à la famille fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, ouverte à la vie, qui assume des responsabilités et qui sont solidaires de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans le monde d'aujourd'hui, et qui montre combien cette famille, qui est toujours plébiscitée dans les enquêtes d'opinion, y compris auprès des jeunes, eh bien, est possible, malgré les grandes épreuves qu'elle traverse, malgré les oppositions qu'elle peut rencontrer, malgré les évolutions sociétales, comme on dit aujourd'hui, et parfois législatives, qui menacent la stabilité et le bonheur des familles, eh bien, on voit que, à travers ce témoignage rendu par des centaines de milliers de familles du monde entier, que la famille est possible. Et donc, je crois que pour nous, c'est forcément un élan pour nos pastorales familiales.
Concernant le délicat problème des divorcés remariés, ils se sentent parfois exclus de l'Église, exclus de la communion. Est-ce que dans le diocèse, il y a un accueil pour ces personnes?
Alors, ça fait partie des choses qu'il faut bien mettre en œuvre dans notre diocèse. Il y a déjà une très belle réalité qui s'appelle la communion Notre-Dame de l'Alliance, qui concerne alors pour le coup des séparés ou divorcés qui veulent demeurer fidèles à l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu
Donc ils ne se remarient pas.
Donc ils ne se remarient pas et qui sont toujours fidèles à leur conjoint, même si celui-ci est parti et même si celui-ci a refait leur vie, a refait sa vie, ce qui est donc quelque chose un témoignage très fort, hein, je pense, pour la réalité du mariage. Et nous devons mettre en place un groupe d'accompagnement des personnes divorcées et mariées pour leur redire que même si ils ne peuvent pas participer à l'Eucharistie et recevoir l'absolution sacramentelle dans l'état de vie qu'ils ont choisi, ils font toujours partie de l'Église et ils ont, c'est vrai, droit à être aimés, accompagnés et prendre leur place au milieu des autres dans nos communautés.
Le 22 mai dernier, l'Ave Maria de Lourdes a résonné en langue arabe à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. C'était la nuit des témoins avec l'aide à l'Église en détresse. Vous attachez une grande importance au soutien des chrétiens persécutés à travers le monde.
Oui, je crois que c'est très important de ne pas oublier qu'il y a quelquefois quelques heures de vol de notre diocèse, des hommes et des femmes, des jeunes qui souffrent pour leur foi, qui sont persécutés à cause du Christ, qui sont menacés dans leur liberté, dans leur vie. Et c'est important de sensibiliser les chrétiens que nous sommes à leur souffrance et à leur détresse, d'abord en se rassemblant dans la prière pour eux et en leur manifestant d'une manière ou d'une autre notre solidarité. Et je crois que c'est fondamental parce que, comme dit Jésus, qui est le premier persécuté pour la justice, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Hein. La persécution est la forme extrême du témoignage rendu à la foi, et elle ne peut que nous stimuler dans notre propre témoignage dans un monde où, pour notre part, nous ne sommes menacés ni dans notre liberté, ni dans notre vie.
Il y avait des témoignages particulièrement émouvants lors de cette soirée, lors de cette veillée. Également, oui. La liste de tous ces témoins de la foi assassinés.
C'est ça. Donc, il y a eu la liste des témoins qui, par le monde, ont été assassinés pendant la dernière année, au nom du Christ. Et puis, nous avions le témoignage d'un évêque copte catholique d'Égypte, qui actuellement assume la fonction du patriarche qui est empêché par maladie et qui nous a donné en effet le témoignage poignant d'une Église profondément meurtrie, discriminée et qui pourtant est toujours apte à la charité et surtout au pardon.
Dans notre diocèse, nous avons eu récemment deux ordinations diaconales, Augustin Meillon, dont nous avions parlé dans une récente émission à Arzac, et puis le 13 mai, Sébastien Lesca, qui a été ordonné diacre en vue du sacerdoce en la cathédrale Sainte-Marie de Lauron. Alors ça nous fait deux futurs prêtres pour notre diocèse, j'imagine que vous êtes heureux de cette relève.
Évidemment que c'est une grande joie pour nous que d'envisager l'ordination sacerdotale, si Dieu le veut, de prêtre l'année prochaine pour le diocèse de Bayonne. Hein, ça, c'est un signe d'espérance qui évidemment est regardé avec beaucoup d'attention par les jeunes qui, dans le diocèse, au séminaire ou en dehors du séminaire, se discernent ou se préparent eux-mêmes au sacerdoce. Donc c'est évidemment pour nous un signe très entraînant, très encourageant pour tous ceux qui veulent s'engager aussi à la suite du Christ pour servir l'Église dans notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
Et en tant que diacre, il va donc rester rattaché à la paroisse de la Trinité de Oloron.
Voilà. Les deux diacres que j'ai ordonnés ont achevé leur formation au sein d'une communauté paroissiale, l'un donc à Arzac, l'autre à Oloron et Curmançon. Et donc, ils vont assumer cette année diaconale, donc cette année de service pastoral comme diacre, dans ces paroisses qui les ont portés et qui les ont accompagnés jusqu'aux ordres sacrés.
Et puis après, en tant que prêtre, on ne sait pas.
Ça, on verra. Dieu seul le sait.
Le 27 mai, c'était la deuxième édition du rassemblement diocésain Famille en Fête, donc le dimanche de Pentecôte à Notre-Dame du Refuge à Anglette. Un beau millier de personnes s'est retrouvé pour la messe l'après-midi. Vous êtes satisfait de cette seconde édition ?
Très heureux parce que je vois que D'abord, l'organisation a été encore plus améliorée. J'ai senti une participation peut-être encore un peu plus nombreuse au cours de la messe en particulier que l'an dernier. Je vois en tout cas que ça continue de répondre vraiment à une attente parce que nos diocésains, y compris nos prêtres qui étaient assez nombreux au cours de la messe, au cours de laquelle je donnais le serment de confirmation aux adultes du diocèse, ne se sont pas lassés par rapport à l'an dernier, sont revenus, encore un peu plus nombreux, toujours plus enthousiastes, en particulier la visibilité de notre diocèse multiforme, à travers la participation des associations, des mouvements.
Il y avait un vrai village de tentes avec tous les mouvements représentés.
Voilà, et l'an dernier nous avions 40 stands, c'est-à-dire, je crois qu'il y en avait une soixantaine. Ça montre l'intérêt que les forces vives de notre diocèse portent à cet événement de diocésain, de rencontre diocésaine.
Les personnes qui étaient à Anglet et les auditeurs de Radio Lapourdi qui ont pu ensuite entendre les témoignages ont été surpris d'entendre votre propre témoignage sur le pardon et la réconciliation.
Je crois que c'est très important que l'évêque ne se sente pas dispensé de ces exigences de conversion qui sont attachées à l'évangile que nous prêchons tous les jours et que je prêche en chef de cordée, en premier de cordée. Et c'est vrai que le thème très touchant de la réconciliation qui a été éclairé par des témoignages extrêmement bouleversants, celui d'un couple qui a rapporter très simplement cette réconciliation en famille, et celui d'un jeune séminariste qui est bien connu de nos services, si je puis dire, puisqu'il a passé 2 ans à mon service à l'évêché.
Gabriel Casas.
Voilà, Gabriel Casas, cette conversion, cette réconciliation avec son père, dans des situations dramatiques, comme il nous l'a rapporté. Ben, j'ai été moi-même touché par ces témoignages et enclin à donner mon propre témoignage de réconciliation au sein de ma vie de prêtre et d'évêque.
Lors de cette journée, il y a eu également la présentation du livre diocésain des fragilités et des merveilles dans le cadre de la démarche Diaconia 2013. Or, cette démarche ne s'arrête pas là, elle se poursuit.
Elle se poursuit et nous sommes maintenant en préparation du rassemblement le Diaconia 2013 qui aura lieu à l'Ascension de l'année prochaine. Et je pense que les paroisses sont invitées à continuer à écrire ces livres des fragilités et des merveilles et aussi à mieux approfondir cette année en particulier le lien entre la diaconie, le service du frère, et la liturgie, qui reste la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église, et qui est la source même de notre service, en particulier des plus petits et des plus pauvres.
Ça veut dire que les petits groupes qui se sont constitués sur Diaconia peuvent continuer ou il peut y avoir des nouveaux groupes qui se créent ?
Oui, je crois qu'il peut toujours y avoir des nouveaux groupes qui se créent, mais que les petits groupes qui ont été conçus continuent en effet, et n'oublie pas que la perspective est vraiment de permettre à tous les frères dont nous pouvons constater les fragilités, de prendre leur place et de se trouver à l'aise dans nos communautés.
Alors vous avez également confirmé les grands jeunes et les adultes du diocèse à Anglet le 27 mai.
Le 27 mai, comme chaque année à la Pentecôte, je confirme les adultes et les grands jeunes. Et cette année, on avait un petit groupe d'une quinzaine, relativement jeunes adultes, avec des témoignages assez bouleversants de redécouverte de la présence du Seigneur dans leur vie, mais à travers des réalités très très simples de nos vies pastorales. C'est pour que c'est très encourageant pour nos paroisses et pour nos fidèles de savoir que un jeune à l'occasion d'une préparation au mariage ou à l'occasion de d'un groupe de prière dans une paroisse ou d'une rencontre avec un prêtre ou avec un fidèle a été touché dans son cœur, a redécouvert sa foi et a vraiment rencontré le Seigneur jusqu'à demander à y prendre pleinement sa place dans l'Église à travers le serment de confirmation.
Alors nous sommes au mois de juin, justement ce sont les temps des confirmations des enfants, le temps des professions de foi, des premières communions, un temps de fête, un temps familial. Quel message adressez-vous à tous ces jeunes qui font le pas de recevoir un sacrement ?
D'abord, je remercie les parents qui continuent d'accompagner leurs enfants, conformément à l'engagement qu'ils ont pris au jour du baptême de leurs enfants, et bien jusque aux grandes étapes de l'initiation chrétienne. Je les encourage d'ailleurs à être eux aussi en tête, hein, et les accompagner pas seulement en les suivant, mais en leur donnant l'exemple, en leur disant que les jeunes regardent les adultes. Et s'ils voient que la foi que les parents ont le souci de transmettre à leurs enfants a vraiment de la valeur dans leur vie de tous les jours, qu'elle transforme même leur vie, eh bien, ils adhéreront d'autant plus à ces étapes d'initiation chrétienne qu'ils font aussi dans les étapes normales de l'éducation qu'ils reçoivent. C'est toujours, en tout cas, une grande joie pour l'évêque et ses collaborateurs immédiats de célébrer la confirmation, parce que à des jeunes et à des enfants en particulier, parce que les jeunes sont évidemment l'avenir de la société et de l'Église, et que la confirmation est le moyen d'aider ces jeunes à prendre effectivement leur place responsable comme chrétiens dans l'Église. Alors j'invite évidemment les communautés chrétiennes et les parents et les familles à ne pas relâcher leur effort et à continuer à accompagner tous ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement prendre leur place comme des adultes dans nos communautés chrétiennes.
Voilà, parce que pour certains, c'est un but. Et puis, comment faire pour qu'ils continuent, qu'ils ne s'arrêtent pas à la première communion ou à la confirmation ?
Eh bien, en particulier, déployer beaucoup d'efforts au niveau de la pastorale des jeunes, hein, pour que ces jeunes puissent trouver là où ils sont des petites communautés, des petits groupes de jeunes chrétiens qui les aideront à grandir dans la foi et à approfondir les dons reçus.
Vous avez effectué récemment deux visites pastorales, une en Béarn et une en Pays Basque.
Voilà, j'ai donc accompli au mois de mai une visite pastorale dans la paroisse de Thèse et au mois de juin dans le Pays Basque intérieur, dans la magnifique vallée de Baïgorry et des Aldudes, donc à la paroisse du Bon Pasteur Baïgorry. Donc très contrasté évidemment, mais deux paroisses rurales et où j'étais évidemment comme toujours très heureux des échanges et des rencontres que j'ai pu y faire, tant avec les prêtres qu'avec les laïcs les plus engagés, et pu constater de part et d'autre, avec des situations effectivement très différentes dans le Béarn et dans le Pays Basque, non seulement la mobilisation des fidèles pour cette visite pastorale, l'accueil reçu par l'évêque à la fois dans la communauté chrétienne, mais aussi auprès de ceux qui ne fréquentent pas notre communauté, dans le monde associatif, professionnel, monde des élus. Je sens aussi toujours plus de demandes au niveau de la mission, hein, dans nos paroisses, et j'ai pu faire des propositions, comme à chaque fois, pour que cette visite pastorale puisse être prolongée par une mission paroissiale qui continue de mobiliser les forces vives de nos paroisses, mais en les aidant à sortir du fonctionnement ordinaire de notre organisme paroissial pour aller vers les autres et leur annoncer de manière plus explicite ce qui nous fait vivre, hein, c'est-à-dire notre foi.
D'autres visites sont prévues avant l'été ?
Pas avant l'été, hein, j'interromps le rythme des visites pastorales pendant les deux mois d'été, de juillet et d'août.
Et ça reprend en septembre.
Alors je reprendrai en octobre, puisqu'en septembre, je serai pas mal mobilisé par la visite ad limina à Rome du 20 au 29 septembre.
Le 29 juin, ce sera la messe avec les prêtres jubilaires de notre diocèse de Bayonne-Escarre et Oloron en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ils sont cette année à célébrer un jubilé ?
Alors j'ai la liste, mais je ne saurais pas vous dire et précisément à l'heure qu'il est le nombre de prêtres, car ils sont quand même assez nombreux. Mais je signale que l'un de mes vicaires généraux, l'abbé François Biche, va célébrer ses 25 ans de sacerdoce, donc c'est quand même un premier jubilé très important.
Le 24 juin à Pau.
Alors ce sera le 24 juin à Pau, à Sainte-Thérèse, en effet. Et puis, mais le 29 juin, tous les jubilaires se retrouveront, et en particulier les 50 ans de sacerdoce, les 60 ans de sacerdoce, et peut-être même les 70 ans de sacerdoce. Alors, je n'ai hélas pas aujourd'hui une liste précise à vous donner, mais en tout cas, je crois que c'est un événement important, car c'est un témoignage qui est rendu de fidélité au Seigneur, qui est rendu par ces prêtres qui sont restés généreux et qui ont souvent traversé des périodes difficiles, comme les turbulences, qui ont accompagné souvent la société et l'Église pendant toute la durée de leur long ministère. Et c'est pourquoi je crois que cette fidélité est déjà un message d'espérance, et en tout cas elle est un gage de fécondité pour l'Église. Je pense en particulier aux jeunes qui veulent devenir prêtres, donc aux séminaristes, et à ceux qui se posent la question de manière secrète, qui peuvent voir que finalement être prêtre, ça tient, et on est toujours heureux. Vous voyez, je viens de Baïgorry, où j'ai évidemment côtoyé le curé longuement, mais aussi deux prêtres auxiliaires, qui sont d'ailleurs dans cette paroisse depuis plus de 30 ans, à Banca aux Aldudes et Repel. Et je suis émerveillé de voir la joie, l'enthousiasme qui continue de les animer dans leur sacerdoce. Ça, c'est un beau message pour les jeunes.
Donc vous invitez tous les fidèles du diocèse qui le peuvent à participer à cette messe avec les prêtres jubilaires, donc le 29 juin, le jour de la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, à 11h dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Il y a s'associer ainsi à leur action de grâce et à l'action de grâce de tout le diocèse.
Alors, il y aura comme souvent en cette période aussi une rencontre avec les missionnaires de chez nous qui reviendront pour un temps de congé. Ça va se dérouler le 8 juillet.
À la cathédrale de Bayonne, voilà, journée qui met en valeur l'engagement missionnaire, à la fois de prêtres ou de religieux ou de laïcs qui s'en vont aider des églises sœurs dans les pays traditionnels de mission, mais aussi de prêtres qui viennent de ces pays de mission et qui viennent nous aider dans nos communautés qui sont devenues aussi des lieux de mission.
Alors c'est bientôt le temps des vacances, puis le temps de la rentrée. Il y a souvent des changements au niveau des nominations de prêtres. Quelles sont vos orientations pour la rentrée? Quels sont les changements déjà prévus?
Alors il y a un certain nombre de changements, comme vous le savez, qui ont déjà été publiés dans la revue diocésaine. Donc des changements de prêtres, des communautés qui arrivent, comme vous le savez, on en a déjà parlé le mois dernier. C'est un peu la routine dans un diocèse que ces mouvements de prêtres, qui supposent évidemment une vraie disponibilité de la part des prêtres, et surtout aujourd'hui où nous en manquons cruellement, et que nous sommes aussi, comme vous le savez, contraints, avec joie aussi, de faire appel à des forces extérieures et des nouvelles forces pour nous aider à relever les défis de la mission. Mais les orientations de l'année, elles ont déjà été un peu déterminées par l'annonce que le Saint-Père a faite d'une année de la foi, pour célébrer à la fois le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique, qui coïncidera avec la tenue d'un synode ordinaire des évêques sur la nouvelle évangélisation. Et c'est évidemment pour nous l'occasion de mettre en œuvre une des orientations que j'avais annoncées dans ma lettre pastorale, qui est la constitution d'un observatoire de la mission, au terme d'une enquête sur le kérigme, qui a rapporté une petite quarantaine de réponses, à la fois de communautés, de mouvements, d'associations ou de personnes individuelles qui ont essayé de répondre de manière extrêmement contrastée, diversifiée, à cette enquête sur le kérigme, c'est-à-dire sur la première annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, et qui nous permet de mettre en place un observatoire de la mission qui s'est déjà réuni une fois et qui commence à réfléchir sur la manière dont cet observatoire peut être, dans notre diocèse, une force concrète de proposition pour promouvoir l'évangélisation dans nos communautés chrétiennes et dans nos établissements scolaires.
Donc cet observatoire, c'est finalement un rassemblement de plusieurs acteurs du diocèse pour réfléchir à des actions après concrètes.
Pour être une force de réflexion et de proposition. Je ne veux pas faire de cet observatoire de la mission une instance diocésaine comme une autre, une structure
en
plus.
Qui ne fait pas que observer.
Voilà, qui se contente pas seulement d'observer et de réfléchir sur le papier, mais qui fera des propositions concrètes pour impulser des démarches d'évangélisation, une pastorale d'évangélisation qui est attendue, d'ailleurs, je le vois bien au cours de mes visites pastorales, dans les paroisses.
Par rapport aux réponses que vous avez reçues sur le kérigme, est-ce qu'il y a des idées fortes qui se distinguent?
Il y a encore tout un dépouillement à faire. à approfondir plus exactement, parce qu'il est déjà fait. Mais si vous voulez, il y a dans l'ordre des moyens d'annoncer l'Évangile, je crois que on voit que chacun, quelle que soit son histoire, son charisme, a vraiment un désir d'annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, d'être témoin de cet Évangile. Ensuite, dans l'ordre des moyens, c'est l'occasion de partager des expériences extrêmement différentes. Ça va de la simple présence au monde, du témoignage que l'on peut avoir dans une famille, vis-à-vis des enfants ou des petits-enfants, à une démarche très explicite d'évangélisation dans la rue, une proposition de catéchèse, que sais-je encore. C'est évidemment là où l'on peut mieux apprécier la richesse, hein, et la diversité de notre diocèse, et puis voir quelques lignes de fond qu'il semble important de mettre en œuvre dans le diocèse pour donner à l'évangélisation encore plus de chair.
Monseigneur Hayet, c'est le temps des vacances qui approche, en tout cas pour certains d'entre nous. Vous, est-ce que vous prenez des vacances? Si oui, est-ce que vous avez une destination déjà fixée?
Alors, je crois que c'est très important de savoir quand même s'arrêter, se détendre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la vertu d'eutrapélie, hein, comme vous le savez. Il y a une vertu pour se détendre. Je crois que c'est important que je fasse aussi moi aussi un break dans le tourbillon de mes activités qui ne s'arrête pas beaucoup pendant l'année. Et ce sera aussi une manière de permettre à ceux qui m'entourent de prendre des vacances.
Vous restez dans le diocèse pour vos vacances?
Non, je rejoins mes parents, car j'ai la grâce encore d'avoir mes parents, mes vieux parents, et je tâche de passer un peu de temps avec eux. Ils sont en Bretagne, puisque, comme vous le savez, par ma mère, je suis originaire de Bretagne. C'est une manière de retourner aussi un tout petit peu aux sources et de prendre un temps de détente en famille.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayet. Rendez-vous à la rentrée pour d'autres informations concernant la vie de notre diocèse et de l'Église. Merci. Et merci à Violaine Ricourt-Dumas.
Merci. À
merci.
Bientôt.